Se dire qu'aller à Cahors juste avant les fêtes pour faire ses courses en canard et autre chose. Mais on va parler d'autre chose concernant Cahors, concernant ces zones grises et ces questions donc d'accès à Internet et au téléphone mobile, puisque nous sommes en compagnie non seulement de Benjamin Bayard, qui est président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, qui peuvent permettre donc de combattre les zones grises, mais aussi de Sébastien Soriano, qui est président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, autrement dit de l'ARCEP. Sébastien Soriano, on a entendu cette annonce hier de SFR. SFR avait promis de fibrer la totalité de la France, autrement dit donc d'installer de la fibre optique pour permettre à tout le monde d'avoir accès à Internet. Et finalement, SFR renonce, probablement pour des questions relevant des finances de l'entreprise. Votre réaction ?
Eh bien écoutez, nous sommes vigilants à ce que SFR, quel que soit son mode d'action, reste un opérateur très engagé dans l'investissement. La France est extrêmement en retard dans la couverture du territoire. Nous sommes le 28e pays européen sur 29 en accès à Internet fixe à très haut débit et le 24e pays sur 28, pardon, pas sur 29, en accès à la 4G mobile.
Et ça donc, veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de
Il y a beaucoup trop de zones blanches. Ça va pas assez loin. Et donc, il faut que le secteur des télécoms, les opérateurs, investissent massivement pour couvrir les territoires.
Et alors, pourquoi ils ne le font pas?
Alors,
pourquoi
ils ne l'ont pas assez fait par le passé, sans doute parce qu'ils ont été trop accaparés par des guerres de prix. Et donc, nous, notre régulation, elle vise à responsabiliser les opérateurs aussi pour qu'ils investissent dans les réseaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mesures qu'on nous avait prises, mais nous avons pris une batterie de mesures qui a permis maintenant l'investissement de croître de 25% en 3 ans. Alors, j'en reviens à SFR. SFR, donc, doit maintenir un investissement fort, et nous avons été heureux lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient des ambitions importantes.
Donc, vous êtes malheureux maintenant?
Alors, c'est plus compliqué, parce que pour autant, les annonces d'SFR ont contrarié un certain nombre de territoires qui s'étaient déjà engagés dans des projets de couverture. Et donc, l'annonce de SFR, c'est pas tant une annonce de renoncer à des ambitions, c'est une annonce de réalisme, pour composer avec ces territoires, pour être plus dans une logique de partenariat qu'une logique de concurrence. Et à cet égard, nous pensons que c'est un geste de raison de la part de SFR, et nous espérons que ça ne se traduise pas par moins d'ambition de la part de cet opérateur.
Mais alors, il y a quelque chose quand même qui n'est pas très clair à ce sujet. Lorsque l'on décide donc de développer la fibre ça coûte très cher, il y a un réseau qui a priori pourrait fonctionner, c'est le réseau des fils de cuivre, autrement dit de la DSL, qui permet l'accès à Internet. Alors certes, peut-être moins vite, mais en tout cas, ça permet d'avoir accès à Internet. Pourquoi l'ARCEP, pourquoi le gouvernement ne fait-il pas un accès à Internet via la DSL sur la totalité du territoire, Sébastien Soriano?
Eh bien, parce que les électrons qui se baladent dans ces fils de cuivre, eh bien, vous savez, quand il doit faire une trop longue distance, il se fatigue. Et donc, il n'arrive pas à apporter un débit Internet suffisamment important lorsque la ligne téléphonique est trop longue. Or, la ligne téléphonique, elle a été construite dans les années 70-80 pour faire du téléphone, pas pour faire de l'Internet. Et donc, la physique a la vie dure. Et donc, dans 70% des lignes téléphoniques françaises, c'est-à-dire en dehors de toutes les agglomérations, eh ben, ça n'est pas possible d'avoir plus de 30 mégabits, quelle que soit l'électronique.
Même si on fait des relais.
Voilà, absolument. Quelle que soit l'électronique qu'on met au debout de ce fil de cuivre. Et donc, il y a un énorme chantier national qui est de remplacer cette infrastructure de cuivre par un nouveau réseau, tout neuf, en fibre optique. Et ça, évidemment, ça coûte cher.
Ça coûte cher, mais on se dit que c'est important, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de zones grises. Il y a des zones grises en matière d'accès à Internet et des zones grises en matière d'accès au téléphone mobile. Alors là, c'est une autre problématique. Parfois, c'est la double peine, ça se situe dans les mêmes zones. Et là aussi, qu'est-ce que vous préconisez, Sébastien Soriano? Qu'est-ce qu'il est possible d'espérer?
Alors, sur le fixe et l'Internet très haut débit, il y a déjà un plan. Et le gouvernement devrait aujourd'hui annoncer une accélération de ce plan. Mais nous, à l'ARCEP, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, la réalité des Français, c'est que le mobile est devenu leur mode d'accès par défaut au réseau. Et donc, il y a une urgence absolue à accélérer la couverture du territoire en mobile en 4G.
Mais concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, ça veut dire qu'il faut que les opérateurs mobiles installent des nouveaux pylônes, alors je sais, c'est pas très joli, dans les zones rurales, qui permettent d'accroître la couverture, d'accroître la qualité, et que sur ces poteaux, ils amènent pas seulement la 2G et la 3G, mais qu'ils amènent aussi la 4G, la data, ce qui permet d'accéder à Internet.
À quelle échéance?
Alors, Le secteur mobile est un secteur qui investit beaucoup, donc ça ne peut être que progressif. Hein. Donc il faut que ce soit un effort progressif. Nous, ce que nous proposons...
Ça veut dire quoi? Sur quelle date? Parce que là, on a l'impression que ça fait déjà beaucoup d'années que c'est attendu, y compris dans des centres-bourgs qui ne sont toujours pas couverts. Je vois dans la Drôme, il y a des centres-bourgs qui sont des zones grises.
Bien sûr. Il y a une première chose, c'est d'apporter la 4G là où il n'y a que la 2G et la 3G. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement parce qu'il suffit, en gros, de mettre à niveau un certain nombre d'équipements sur des pylônes qui existent déjà. Ça peut se faire en... je sais pas, en 2-3 ans. Ce qui est plus difficile, c'est de construire des nouveaux pylônes, parce qu'il faut des autorisations, il faut les installer, ça coûte de l'argent, et ça, c'est ça qui ne peut être que progressif. Et donc, c'est difficile pour moi de vous donner un chiffrage précis, parce que on a trop parlé aux Français en matière de pourcentage de la population, en disant, vous inquiétez pas, 99% est couvert, 99,5%, donc moi, je vais pas me lancer dans ce genre d'exercice. Nous, ce que nous avons proposé au gouvernement, pour être concret, c'est d'avoir un deal avec les opérateurs, qui soit gagnant pour tout le monde. Les opérateurs, ils utilisent des fréquences qui sont la propriété de la nation, comme les radios d'ailleurs. Et ces fréquences, d'habitude, on les fait payer aux opérateurs avec des enchères parfois très juteuses qui se comptent en milliards d'euros. Nous, ce que nous proposons au gouvernement, pour une fois, c'est de faire une opération dans laquelle, au lieu de demander aux opérateurs des grandes sommes d'argent, on leur demande des engagements extrêmement forts, plusieurs milliards d'euros d'investissement pour couvrir les zones rurales. Donc nous avons fait une proposition très documentée en ce sens au gouvernement il y a une dizaine de jours maintenant. Le gouvernement est donc dans un dialogue avec les opérateurs pour arriver à ce résultat. Nous pensons que c'est indispensable pour répondre à l'exaspération des Français dans les zones rurales.
Benjamin Bayard, votre point de vue là-dessus, et je vous pose la question parce que vous êtes président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, autrement dit des gens qui décident de se réunir pour avoir accès à Internet, par exemple dans les zones grises.
Oui, par exemple. La fédération est composée d'une trentaine de fournisseurs d'accès à Internet associatif, il y a des types d'opérateurs très différents, mais l'un des types d'opérateurs, ce sont des gens qui en avaient marre de ne pas avoir de réseau chez eux et qui ont décidé de le fabriquer. Parce qu'effectivement, soit on attend qu'un grand groupe industriel piloté par 3 polytechniciens et 2 énarques dans son plan d'investissement vienne couvrir le centre-bourg en 2030, soit on se dit, ok,
oui,
qu'est-ce que je peux faire
plutôt 2030.
Qu'est-ce que je peux faire, moi, la semaine prochaine, pour qu'il y ait du réseau chez moi? Et en fait, les techniques sont pas hyper complexes. Il vaut mieux avoir des petites bases en informatique, c'est un peu plus compliqué que la borne Wi-Fi qu'il y a dans votre salon, mais pas beaucoup plus. Et on sait faire des choses. La grande différence, c'est qu'on va pas attendre qu'un opérateur vienne, on va décider de prendre les 3, 4, 5, 10 qui savent faire un petit peu d'informatique, qui ont un peu de temps libre, et on va regarder comment on construit le réseau. Ok, comment on construit un réseau chez nous? En général, on déploie pas de la fibre, parce que les techniques sont relativement complexes. Quand on dit que la fibre est chère, il faut pas se tromper. Le fil de cuivre coûte très cher, et le fil de fibre, c'est-à-dire la fibre optique elle-même, coûte rien. C'est du verre, donc c'est du sable, enfin, ça coûte rien par rapport au cuivre. En revanche, c'est faire des trous partout pour poser les tuyaux qui coûtent cher. Et donc ça, quand on n'a pas envie de le faire et qu'on veut couvrir des zones blanches, on fait ça avec du Wi-Fi et on a moyen de faire des très très hauts débits, très corrects avec du Wi-Fi.
Mais justement, on a l'impression que de plus en plus, Benjamin Bayard, l'utopie initiale d'Internet, qui est donc d'avoir des fournisseurs d'accès associatifs, d'avoir des logiciels open data ou en tout cas des logiciels libres que l'on peut bidouiller dans son coin, des services sympathiques qui permettent par exemple de partager le canapé du salon, tout cela a basculé dans une autre dimension, beaucoup moins libertaire, beaucoup plus business-minded, beaucoup plus orienté vers les affaires et finalement peut-être beaucoup plus inquiétante.
Alors beaucoup plus inquiétante, oui, parce que en général, ces grands groupes industriels ont une logique qui n'est pas, pas très éthique. Il faut pas croire que cet Internet utopique des débuts du partage, etc., est disparu. En revanche, il a disparu presque entièrement des médias. Pour une raison simple, les journalistes regardent essentiellement le chiffre d'affaires. On peut dire Google est un grand groupe, mais on n'est pas capable de dire le mouvement associatif est un grand groupe parce qu'il fait pas du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est très compliqué. En fait, vous pouvez pas parler de 6000 associations qui font chacune quelque chose. C'est trop compliqué à appréhender vu de loin. En local, on est identifié. Je prends un exemple très simple, ce qu'on fait dans l'Yonne. L'opérateur local...
Où ça, dans l'Yonne?
Eh ben, dans plein de petites villes de l'Yonne, on couvre le réseau fait presque 180 km de long, donc on sort un peu du département. L'opérateur local, c'est Scanny. C'est une société coopérative, sans but lucratif, qui construit du réseau et qui a raccordé plusieurs centaines d'abonnés sur plusieurs dizaines de villages, et qui va raccorder la petite maison perdue qui est même pas dans le hameau, la ferme isolée. Et comment on fait ? Ben, on met des relais en Wi-Fi sur le silo à grains, sur le clocher de l'église, et on fabrique du réseau comme ça, et on amène en race campagne 30 ou 50 mégas.
Et une fois qu'on a le réseau, on peut se connecter à Facebook, et là, les ennuis commencent, tout simplement parce que, hier, vous l'avez peut-être entendu, l'ex-vice-président en charge de la croissance de l'audience de Facebook, déjà tout un programme, a déclaré des choses assez inquiétantes. Il s'appelle Shamat Palipatia, on l'écoute.
Je peux contrôler les choix de mes enfants. Ils ne sont pas autorisés à utiliser cette merde. Je me sens extrêmement coupable. Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social sur lequel est fondée notre société. C'est vraiment là où nous en sommes. Vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes programmé. Ce n'était pas intentionnel. Maintenant, c'est à vous de décider à quel point vous êtes prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle. Nous organisons notre vie autour de cette fausse image de la perfection, parce que nous sommes récompensés par des signaux instantanés, cœurs, likes, pouces bleus, et on leur donne de l'importance, et on les confond avec la vérité. C'est juste mauvais.
Un ex-vice-président donc de Facebook qui explique que, grosso modo, ce service a apporté la peste et le choléra aux humains et notamment aux enfants. Sébastien Soriano, vous présidez l'ARCEP, l'autorité de régulation. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans ?
C'est assez intéressant ce mouvement des repentis. On en a connu...
dans la mafia.
Dans la mafia, ou sans être sans pousser aussi loin chez les traders aussi. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces services qui sont quand même des services exceptionnels en termes d'ergonomie, de facilité, etc., il faut quand même s'en rappeler, eh bien, de plus en plus, ils se développent contre les gens. Parce que on est dans une économie de l'attention. Ce qui est monétisé, effectivement, c'est le temps que peuvent passer les gens à scruter des choses. Et donc, ces services sont incités à créer de l'addiction aux écrans, et donc à ce qu'on perde le maximum de temps sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Moi, ce qui me fascine, lorsqu'on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon et les autres, c'est qu'on a renoncé à une chose simple. C'est d'avoir le choix. Lorsque vous choisissez d'acheter des boîtes de conserve, vous avez 5 marques différentes. Vous avez 5 magasins différents pour faire le choix. Lorsque vous allez sur un réseau social, il y a Facebook. Alors, il y en a d'autres, on va y revenir, mais ils sont pas aussi compétitifs. Et donc, moi, je crois que la priorité, c'est qu'il faut réintroduire une chose simple, c'est l'autodiscipline du marché. Quand vous êtes en concurrence, eh bien, vous avez intérêt à bien traiter les gens, tout simplement. Et donc, moi, ce pourquoi je milite, c'est qu'on se mette très sérieusement au travail sur cette question de comment faire en sorte que ces marchés du numérique, ces GAFA, soient concurrencés, qu'il y ait des alternatives. Et ces alternatives, certaines d'entre elles, elles seront plus éthiques et elles respecteront mieux les individus.
Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Bayard ? Je rappelle que vous avez fondé la Quadrature du Net, qui est un mouvement qui militait justement en faveur de la liberté sur Internet.
Ben, je ne crois pas au marché pour réguler ça. Je crois pas au marché pour ça. Le marché, ça sert pas à ça. Le marché, ça sert à maximiser les profits. Et en fait, là-dedans, il y a un problème d'inversion de valeur. C'est-à-dire, chez Facebook, vous êtes la marchandise. Vous êtes pas le client. Donc, Facebook sert les intérêts de ses clients en vendant la marchandise la moins chère possible, quitte à la maltraiter. C'est ce que font tous les commerçants. Un commerçant, ça sert son client.
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben derrière, il y a des problèmes qui relèvent pas du marché, ou plus exactement pas de cette structure de marché. L'élément malsain, par exemple, là-dedans, c'est la publicité. C'est-à-dire que ce sont des marchands d'attention. Moi, j'aurais rien contre le fait que les réseaux sociaux puissent être payants. Pourquoi Facebook me propose pas de m'abonner à 2-3 euros par mois et où j'arrête d'être une marchandise publicitaire? Or ça, c'est un modèle qui n'existe pas à l'heure actuelle et c'est un modèle qui est dissuadé. C'est-à-dire quand on essaye de monter des mécaniques de
pourquoi
ce type-là...
Pourquoi dissuadé ?
Ben parce que la grande masse économique, parce que les grands investisseurs, ils ont besoin de la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, derrière les grands réseaux sociaux qui vivent de publicité, il y a les grands industriels qui veulent vous vendre. Mais il faut repérer, c'est pas seulement Facebook. Facebook, c'est la pointe qui est en train de vous transpercer et de vous faire du mal. Mais derrière, il y a des gens qui poussent. tous les gens qui ont besoin d'acheter votre attention parce qu'ils veulent vous vendre, parce qu'ils veulent vous expliquer qu'une voiture c'est plus écologique que de marcher à pied. Tous ces gens-là, ils ont besoin de vous le répéter beaucoup, le message faux, pour que vous finissiez par l'avaler.
Le gouvernement envisagerait, Sébastien Soriano, d'autoriser l'inscription sur Facebook à partir de 16 ans et à partir de 16 ans seulement. C'est une bonne idée? C'est une mesure réaliste?
Pourquoi pas? Moi, je suis un petit peu vigilant par rapport à des mesures qui viennent d'en haut et une approche un peu trop paternaliste des choses. Je suis un militant du nudge. Vous savez, le nudge, cette idée qui a été repopularisée récemment avec le prix Nobel d'économie remis à Monsieur Thaler, c'est l'idée que parfois on peut inciter les gens en les informant mieux. Donc c'est comme sur les paquets de cigarettes, lorsque vous avez ces photographies absolument atroces de ce qui vous arrive quand vous fumez. On n'est pas obligé d'interdire, parfois on peut mieux informer.
Là, il s'agit d'enfants.
Oui, mais justement.
De mineurs.
Oui, mais en général, les enfants, ils ont des parents. Et donc, on peut aussi être dans des dispositifs d'accompagnement, on peut s'appuyer sur l'école. Moi, je ne crois pas aux lignes Maginot. Parce qu'elles finissent par céder. Et lorsqu'elles cèdent, à ce moment-là, c'est terrible.
Qu'en pense Benjamin Bayard?
Bon, je pense que c'est une idiotie. Je pense qu'à 16 ans, vous étiez assez grand pour savoir désobéir à vos parents. Je pense que les ados sont plus doués que leurs parents en moyenne pour utiliser l'ordinateur, et donc c'est complètement idiot.
Bon, il y a l'impossibilité technique, mais aussi le sens, je dirais, moral du terme. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que, par exemple, le fait de leur interdire avant un certain âge l'accès à Facebook est quelque chose qui vous paraît moralement défendable?
C'est une question d'inversion. Pour moi, il y a un problème d'inversion. C'est-à-dire que Facebook fait du mal et donc on va interdire aux enfants. So what? Si Facebook fait du mal, c'est à Facebook qu'il faut interdire. Pour moi, c'est une question d'inversion des valeurs. On est en train d'interdire à quelqu'un qui n'a rien fait. C'est n'importe quoi. Qu'on interdise donc aux malfaiteurs d'être des malfaiteurs.
Il y a en tout cas une question donc à la fois de neutralité, en tout cas de liberté d'expression sur Internet, une question qui revient souvent, Sébastien Soriano. On a appris hier que le gouvernement demandait le départ de Rokhaya Diallo du Conseil national du numérique. Rokhaya Diallo, c'est une essayiste militante qui a des opinions de militante, donc celles-ci peuvent être évidemment controversées. Par exemple, lorsqu'il y a eu un premier attentat contre Charlie, elle a monté une pétition contre Charlie expliquant qu'il y avait eu dans cet organe de presse un certain nombre de caricatures qui pouvaient être perçues comme blessantes. Donc on peut adhérer ou ne pas adhérer à ce qu'elle a dit, mais en tout cas, s'il s'agit d'avoir un Conseil national du numérique, on imagine qu'il doit représenter différentes opinions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, c'est difficile de se prononcer sur un cas particulier. Ce que je dirais, c'est que ce Conseil du numérique, effectivement, il renaît de ses cendres après plusieurs mois de mise entre parenthèses, avec une énergie nouvelle et avec la volonté d'être beaucoup plus représentatif d'une certaine diversité.
Alors c'est raté du coup.
Pour autant, je crois que ce Conseil du numérique, pour être utile, mieux vaut qu'il ne soit pas hors sol. Et donc, il faut quand même qu'il s'installe dans un dialogue avec les pouvoirs publics. Ce Conseil, hein, vous savez, c'est celui, par exemple, qui avait dénoncer les fichiers TESS récemment en disant que c'était une espèce de nouvelle police des gens, une espèce de société de surveillance qui était en train d'être mise en place. Donc il a une valeur utile de contre-pouvoir. Ça, c'est très utile. Mais c'est aussi
un
conseil.
Il a un pouvoir
conseil...
de décision?
Alors, non. C'est un conseil. Donc,
donc il sert à rien.
Il peut faire des expertises, réagir sur ce genre de choses et il accompagne des politiques publiques. Hein. Par exemple, il avait mis en place une stratégie pour le numérique en 2015. Récemment, il avait mis en place toute une stratégie sur les PME connectées pour que les PME françaises aient plus accès à Internet. Donc, c'est un organe qui est très utile pour accompagner les politiques publiques, mais il peut pas être complètement hors sol. Et donc, je comprends qu'il puisse y avoir un dialogue entre le gouvernement et cette instance pour que sa composition puisse se faire dans la sérénité.
Benjamin Bayard, vous en pensez quoi que cette femme, Rokhaya Diallo, encore une fois, quoi qu'on pense de ces différents combats, soit mise comme ça en dehors de ce conseil?
De Rokhaya Diallo, je ne pense pas grand-chose. Je ne la connais pas assez pour avoir un avis.
Sur le principe?
Sur le principe, moi, les gens sulfureux ne me gênent pas quand ils ont des arguments. Donc, voilà.
C'est d'ailleurs le point de vue que vous avez défendu avec la quadrature du net, et l'idée selon laquelle le net devait demeurer un un espace donc de libre expression et que finalement les dangers de la libre expression étaient moindres que la censure de cette libre expression.
Non. La Quadrature du Net a toujours défendu la liberté d'expression en ce sens que la censure ne doit être ni privée, c'est-à-dire que c'est pas à Facebook de décider de censurer, ni administrative, c'est-à-dire que c'est pas à la police de décider de censurer. Il y a une justice, il y a une indépendance entre l'exécutif et le judiciaire, il y a une séparation, et nous, ce qu'on demande, c'est ça. Ce qu'on demande, c'est que la censure, si elle doit avoir lieu, elle soit judiciaire, pour qu'il puisse y avoir une défense.
Mais alors, par exemple, lorsqu'il y a eu la question donc de la consultation des sites djihadistes, quel était le point de vue de la Quadrature du Net à ce sujet ?
La consultation, lire.
D'où
ça peut être interdit de lire. C'est-à-dire qu'il soit interdit d'exprimer certaines choses. L'appel au meurtre, la haine raciale, etc. Qu'il soit interdit d'exprimer certaines choses et qu'il y ait un juge pour venir sanctionner et faire fermer ces sites. Pourquoi pas ? D'où on pourrait interdire de lire.
Sébastien Soriano.
Oui, je dirais, pour reboucler sur la discussion des grands acteurs de l'Internet, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces grands acteurs, ils s'érigent aussi en censeurs privés. Je veux dire, on a cette anecdote bien connue sur Facebook, si comme photo vous mettez le tableau de l'origine du monde, bien connu, avec une femme dénudée, eh bien vous êtes censuré par Facebook, votre compte est fermé. Et donc aujourd'hui, je dirais que ces questions de liberté sur Internet, elles deviennent vraiment majeures. Il y a eu un article intéressant d'un développeur brésilien qui a théorisé la notion de trinet. En fait, il dit, Internet c'est terminé. Maintenant c'est un trinet. Il y a Google, il y a Facebook et Amazon. Et il y a 70% du trafic qui passe sur ces trois réseaux. Et donc aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que cet enjeu, il s'est déplacé. Oui, bien sûr, il y a la question de la censure de l'État qui reste un enjeu majeur, un enjeu de principe important quand on voit qu'il y a certains pays comme la Chine qui ont créé un Internet national. Cet enjeu reste évidemment très important.
Avec des sites censurés aussi, pas seulement en Chine d'ailleurs, Turquie par exemple.
Mais dans nos démocraties, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le comportement des acteurs privés. C'est le sujet de la neutralité du net, encore une fois. De permettre que les opérateurs télécoms ne fassent pas ce qu'ils veulent. Et je pense que le défi de demain, ce sont ces grands acteurs d'Internet de veiller à ce qu'ils n'instaurent pas une espèce de société parallèle privée à eux.
Vous avez peur de ça, Benjamin Bayard, aujourd'hui en France ?
Moi, j'ai peur de deux grands types d'acteurs. J'ai peur des acteurs de type GAFA, parce qu'ils ont un pouvoir colossal sur ce qui circule sur les réseaux. Ils ont une place centrale. Ça s'est déjà produit dans l'économie, le fait qu'il y ait une hyperconcentration comme ça. C'était au début du XXe siècle. On en est sorti par les lois antitrust que portait Theodore Roosevelt aux États-Unis. Ça, c'est un danger majeur. Et derrière, il y a des dizaines de dossiers sur les terminaux. C'est-à-dire savoir comment fonctionnent les téléphones et quelles informations sur vous ça diffuse, etc. Enfin, il y a des choses épouvantables là-dedans. J'ai peur de.
C'est un vaste programme. Nous n'en avons pas parlé, mais effectivement, c'est l'un des enjeux posés par.
J'ai peur aussi beaucoup du monopole que représente le fournisseur d'accès, puisqu'en fait, le fournisseur d'accès Internet représente un monopole sur vous. Google a une espèce de monopole comme moteur de recherche, etc. Mais vous ne pouvez accéder à Internet que par le opérateur au singulier auquel vous êtes abonné. Et il a un monopole sur vous.
Dernière question, Sébastien Soriano. Si ça devenait un commun, justement, l'accès à Internet, puisque on est à peu près tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de vivre sans Internet.
Tout à fait. C'est exactement ça le sujet. C'est de définir quelles sont les infrastructures critiques, essentielles, qui doivent être gérées comme des communs. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nationaliser, mais qu'elles doivent être soumises à des règles. L'accès à Internet, le terminal, et puis quelques services essentiels, le moteur de recherche, les magasins d'applications. C'est ça vraiment le défi de demain, de créer des régulations qui s'appuient sur le marché et sur son innovation, mais qui fassent en sorte que tout ça aille au service de l'humain, au service de tous.
Merci Benjamin Bayard, merci Sébastien Soriano pour l'ARCEP.